On arrive tout juste de Rancurel, là. Donc il y a la charbonnière qui était allumée la semaine dernière. Donc, on est ravis d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Je vais me présenter. Je suis Sébastien. J'habite de l'autre côté du Vercors, sur le balcon est, Trièves. Je suis cofondateur de l'association Culture Ailleurs, qui est une asso qu'on a montée il y a une trentaine d'années.
Donc Julien, pareil, cofondateur de Culture Ailleurs. Moi, j'habite à Grenoble, charbonnier urbain. Alors du coup, voilà, je travaille avec Sébastien depuis la création de l'asso sur la fabrication du charbon.
Et Philippe, alors moi, j'habite un peu partout dans le Vercors. Je ne vais pas vous dresser la liste des lieux que j'ai hantés. Je suis très attaché au massif des Coulmes et c'est avec une joie juvénile que j'ai retrouvé la charbonnière du Mont-Noir. C'est vraiment une cure de jouvence hein, d'aller passer deux jours là-haut à l'écart des rythmes effrénés de notre monde. Voilà. Et moi, je travaille autour de la question, alors à la fois de ce qu'on pourrait appeler les liens entre société humaine et la sylve, pour prendre une métaphore un peu poétique. Et puis, depuis une dizaine d'années, je me suis un peu spécialisé sur l'histoire des mouvements migratoires de part et d'autre de la barrière alpine, en essayant de montrer que c'est un monde peut-être qui est plus unifié que le système des États-nations tendrait à nous faire croire qu'il est. Voilà. Donc je suis historien, un peu anthropologue, un peu animateur culturel. Et aujourd'hui, je travaille dans un musée à Valence qui s'appelle le Centre du patrimoine arménien. Je coordonne un label qui s'appelle Ethnopôle, Migration, Frontières, Mémoire. Et j'ai déserté le Vercors pour aller vivre en banlieue grenobloise auprès de la grande forêt de Belledonne, mais qui est aussi très intéressante, qui a aussi été très charbonnée.
Enfin, oui, moi je suis artiste, entre guillemets d'art contemporain, puisque je suis là maintenant, je vis le présent. C'est d'être en capacité d'être dans l'événement. Et donc on travaille sur des sujets assez différents, mais souvent dans des endroits enclavés, parfois loin de la route. C'est ce qui nous anime. Et donc, on est arrivé tout doucement à s'intéresser et à travailler autour de cet univers ou cet art qui est la fabrication du charbon. Parce qu'en compte, j'habitais Trièves, on était en train de travailler sur un livre sur la forêt. Donc, on s'est approché petit à petit en créant une installation performance, donc spectacle, sur les charbonniers. Après, on a une manière de travailler un petit peu, une manière un peu anthropologique, puisqu'on compte, on est allé rencontrer, donc on a travaillé ce spectacle avec une musicienne qui est Anne-Julie Rollet, musicienne électroacoustique. Et donc, nous sommes allés rencontrer, essayer dans le Trièves de rencontrer les charbonniers. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on compte, les charbonniers dans le Trièves. Les gens savaient qu'il y avait des charbonniers, mais ils ne les avaient jamais rencontrés, pour la plupart. Enfin, en tout cas, ceux qui étaient encore présents, vivants. Et donc, ça nous a tout de même interpellés, puisque donc, on a essayé de frapper aux portes, de rencontrer les anciens. Et donc, petit à petit, ça nous a amenés à rencontrer, puisqu'on avait été invités via Philippe, hein, justement. C'était à Villard-de-Lans. Ça doit être en 2009, je crois, ou 2008 peut-être même, sur une charbonnière d'à travers corps avec notre performance spectacle. On a pu lier des liens et des contacts, puisque Philippe avait pas mal et même beaucoup travaillé autour de ce sujet.
Nous, on est arrivé vraiment par le chemin artistique et culturel dans cette histoire de charbon. Et en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était vraiment de se retrouver en forêt et d'être dans un espace où on allait faire naviguer les spectateurs pour les amener dans des espaces qu'on avait aménagés pour pouvoir jouer ce spectacle. Et je crois que c'est vraiment aussi ce qui est pour nous et ce qui reste encore fort maintenant, c'est vraiment de se retrouver en fait en forêt. Pour pousser encore un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on a eu fait cette charbonnière donc à Villard-de-Lans, on s'est dit allez, on va plus loin et on va nous créer notre petite clairière, notre espace dans le Trièves et faire notre charbonnière, donc la meule ancestrale à l'ancienne, dans une clairière qui est juste à côté du Mont-Aiguille, où là, on a fabriqué donc une cabane qui est restée, qui existe toujours et qui est un lieu mère pour nous. Et où, en fait, on a donc, nous aussi, passé 3 semaines, mais en mélangeant, c'est-à-dire on faisait cette charbonnière et là, ça devenait un espace de vie, un espace de rencontre où les gens venaient aussi nous donner des coups de main, venaient participer à différents chantiers. Et pendant ces 3 semaines, on a aussi, nous, fait d'autres performances, invité des musiciens, fait des programmations de cinéma. Donc ça, on l'a répété pendant 2 ans. Et puis, c'est passé un long moment de stand-by, on va dire. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va pas... Quand Sébastien disait qu'on fait de l'art contemporain, on n'avait pas envie, nous, on a envie de faire des choses dans le présent. Donc, on trouve ça super bien de refaire vivre des métiers passés. Mais on avait envie d'aller au-delà de ça. Donc, on a passé un long moment, ça a bien duré au moins 5-6 ans, je pense, en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné, on s'est dit, allez, on y va, on va creuser plus loin. Et à quoi peut servir le charbon et comment il peut être fabriqué autrement que par ces meules d'autrefois? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à monter un nouveau projet pour se doter d'un nouveau four, une nouvelle technique de fabrication.
Et c'est vrai que le fait, alors donc c'est trois semaines de cuisson, entre guillemets, hein, puisque c'est plutôt une pyrolyse, même sous la terre, sous les feuilles. Hein. C'est un système de conduction dans un espace fermé avec très peu, voire sans oxygène. Donc on est plutôt dans un système de pyrolyse. Et donc c'est 3 semaines de cuisson, mais 3 mois effectivement de vie en forêt. Parallèlement, j'ai eu à habiter aussi en forêt, dehors, etc. Et c'est vrai que l'idée générale, c'est-à-dire qu'effectivement, produire du charbon végétal, c'est une chose, mais il y a aussi, on compte tout ce qui se passe autour. Tout ce qui va, on compte aussi générer, on compte le fait de créer un espace, de créer un lieu, de vivre avec la nature, avec la vie animale, la vie végétale, et aussi ces discussions, ces rencontres, ces gens qui montent, qui passent nous voir. Ça crée une dynamique qui est très très forte. Et pour parler aussi du livre, puisqu'on est, venu aussi, pour parler de ce bouquin, ce qui nous intéresse aussi, c'est le carbone. Et le carbone, il a comme particularité, c'est d'être un élément de la chaîne périodique qui se lie quasiment avec tous les autres éléments. Et le carbone, il est dans l'air, dans le feu, dans l'eau, dans notre corps. Il a une capacité à se lier, à transformer, à rendre les choses dynamiques. Et nous sommes retrouvés en compte dans cet esprit-là, complètement dans cet univers du carbone, puisqu'on compte la charbonnière, c'est ce qu'elle fait. Le charbon, c'est ce que ça fait, quoi. C'est-à-dire que ça crée un pôle, bien plus important qu'un pôle, c'est un centre, c'est un ventre, c'est vivant. Quand on l'allume, effectivement, avec du feu. Donc il y a toute cette histoire de la maîtrise du feu qui nous intéresse particulièrement aussi, puisqu'on compte, au-delà de ces projets-là, nous on travaille depuis 30 ans aussi en Afrique, où on passait beaucoup de temps avec des forgerons. On m'a transmis le secret du feu, etc. Et donc, c'est un petit peu les Grecs, comme Prométhée, hein, qui volent le feu aux dieux. Et donc, c'est pour ça que dans le bouquin, vous avez cette fameuse triple page des éclairs qui tombent là, justement, sur notre cabane. Puisqu'en compte, la base, elle est à cet endroit-là. Donc voilà où est notre cabane, exactement là où l'éclair tombe. Donc ça, c'est un photographe chasseur d'éclairs, cet éclair. Voilà, et donc effectivement, cet esprit du feu, cette maîtrise, ce lien, cet élément qui est en compte aujourd'hui hyper important parce qu'on est dans un monde où on remplace des technologies par une autre, le monde va très vite, les savoir-faire se perdent. Nous, quand on a rencontré justement tout à l'heure, je vous disais, c'était très compliqué de rencontrer des charbonniers. Alors après, c'est vrai qu'il n'y en a quasiment plus. Donc, merci, vous êtes là. Mais c'est vrai que ce métier aussi a disparu au profit d'autres technologies, d'autres énergies, etc., etc. Alors que les charbonniers nous ont laissé un héritage énorme et bien plus important qu'on pourrait le croire pour plein de raisons qu'on va essayer de développer. Voilà, donc c'était pour revenir un petit peu à la base de cette maîtrise du feu. Par cette maîtrise du feu, eh bien nous, on voit aussi les choses par le paysage, par le fer, par la mythologie, par le symbolique aussi. Il nous est apparu nécessaire de pouvoir célébrer ce monde des charbonniers par un rite aujourd'hui qu'on mène, pas chaque année, mais de manière assez régulière, où on vient célébrer le charbon, le feu et cette matière végétale.
Non, simplement, on va vraiment faire un dialogue, hein. Il n'y aura pas d'exposé didactique, là, les artistes et l'historien, on est ensemble, hein. On a rêvé ce projet à plusieurs voix. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'effectivement, le charbonnier, dans la plupart des sociétés du monde occidental, mais même au-delà, hein, depuis en tout cas qu'il y a des pratiques d'écriture, donc on va remonter au monde grec, il y a une espèce d'opposition binaire entre l'homme des cités, l'homme de la cité, l'habitant des villes, et puis l'ambassadeur du sauvage, qui est l'homme de la forêt, qui est en quelque sorte le charbonnier. Et tout ça génère effectivement donc des représentations qui sont très présentes dans la littérature orale, dans les contes, dans la musique, dans la chanson. Et ce que disait Sébastien, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est mythifié. Voilà. C'est pas spécifique au domaine français, hein. Vous le retrouvez même en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et il y a cette idée du transformateur de la matière. Et il y a un très beau roman de Marguerite Yourcenar qui s'appelle L'œuvre noire, où Zénon est un apprenti philosophe qui circule d'université en université à l'échelle européenne et qui va à un moment s'égarer en forêt et puis rencontrer des charbonniers. Alors, pardon pour Alain et Jean-Charles, parce que ce n'est pas du tout la réalité du métier, ce qui est décrit dans l'œuvre de Yourcenar, c'est une représentation. Et Zénon, le philosophe qui maîtrise Aristote, donc l'intellectuel voit des individus couverts de suie, habillés en noir, parce qu'ils ont couvé leur charbonnière toute la nuit, puis il dit qu'ils n'avaient pas plus de langage qu'un chevreuil. Donc on a naturalisé la figure du charbonnier, on en fait un ambassadeur du sauvage, et quelqu'un qui a à voir. Alors aujourd'hui, ça serait peut-être valorisé dans notre société qui est en quête de représentation écologique, il est connecté au vivant. Et je trouve que tout ce que tu nous as dit sur la puissance du carbone qui transforme, qui relie, qui lie, c'est la figure du charbonnier dans l'imaginaire collectif. Et depuis vraiment des temps antédiluviens, joue ce rôle-là. Je ne vais peut-être pas en dire plus pour le moment, puis on reviendra à ce sujet peut-être tout à l'heure. Voilà.
Oui, mais après, c'est vrai qu'en plus, le charbon, c'est tout de suite, et au départ, enfin, ça servait, on va dire, pour tout ce qui est transformation auprès du fer, tout ça, l'industrie. Et puis là, maintenant, il y a aussi de nouvelles recherches, tout ça, qui vont aussi dans un sens à se dire, mais en fait, le charbon, enfin, on revient sur des choses, finalement, qui existaient déjà avant, mais qu'on n'avait pas mis le doigt dessus, on va dire, scientifiquement, en disant, mais oui, en fait, ça servait déjà autrefois à filtrer l'eau. Bon, OK, d'accord. Et puis, oui, mais en fait, c'était aussi utilisé autrefois, moins de 1000 ans avant Jésus-Christ, en Amérique du Sud, pour améliorer les qualités de sol. Notamment parce que ça retient l'eau, mais aussi ça vient faire des abris pour les microbactéries. Donc c'est des choses, en fait, qui reviennent et qui se redécouvrent et qui viennent maintenant être encore appuyées par le fait qu'on vient faire des recherches scientifiques et qu'on touche aussi, à travers le charbon, des questions d'environnement. Alors c'est paradoxal parce qu'on produit du carbone alors qu'il faut décarboner.
Moi, je vais vous lire un petit passage de la préface qui a été écrite. Alors peut-être, je vais peut-être aussi... par rapport à cet ouvrage, puisque donc l'idée c'était de... On a travaillé avec Terre Vivante sur des expérimentations autour du charbon végétal comme amendement pour le sol, pour la vie des sols. Et ils ont aussi un magazine qui s'appelle Les 4 saisons pour les jardins, etc. Donc on a fait pas mal de tests. Et puis, de fil en aiguille, c'est une maison d'édition. On avait bien envie, évidemment, de faire un livre avec eux. L'idée, c'était nous, dans cette dynamique de charbon, c'était aussi de travailler avec l'ensemble des personnes avec qui on avait échangé, ou d'autres avec qui on avait envie d'échanger autour de ce livre. Donc, finalement, il y a eu une quarantaine de personnes qui ont contribué à cet ouvrage. Et donc, on a pris le temps avec tout un petit groupe pour travailler ensemble, puisqu'on compte chaque texte ou chaque image, pour la plupart, à part quelques exceptions, ont été faites pour le livre. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur la création d'un ouvrage, un peu comme une pièce artistique, mais dans l'idée que ça soit un livre dans lequel, comme dans une bibliothèque, on peut... Puisqu'on compte, le charbon, c'est tellement vaste, C'est-à-dire que on avait travaillé avec Philippe l'idée de le travail sur la mémoire, le livre s'appelle « Alchimie entre art, mémoire et environnement ». Donc c'est bien, on compte aujourd'hui aussi cette vision de mettre les choses à l'horizontale, les sciences à l'horizontale et l'art aussi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit plus haut que l'autre et qu'on ne comprenne pas, sans vulgariser nécessairement la science, puisqu'on compte il y a des propos, ce que Julien disait, c'est assez complexe, mais justement, on compte c'est une compréhension de cet ensemble. Et un petit peu comme Bruno Latour nous disait, on compte aujourd'hui dire humain, non, on est plutôt des terrestres, et donc d'arriver à par le biais de l'alchimie, entre guillemets, de transformer la matière, puisqu'on va aller chercher le carbone dans cette matière, ce qui nous intéresse, c'est aussi de pouvoir la penser, parce que on a hérité d'un passé qu'il faut comprendre, le travailler, et donc charbonnier, c'est aussi quelque chose qui annule un petit peu les temps du passé, du présent et de l'avenir. On est dans le moment. Je voulais présenter Vincent Sorel, qui est, lui, cinéaste, qu'on connaît depuis de longues années, un petit peu comme Philippe et comme la majeure partie des gens qui ont travaillé sur ce livre. Et on aimait bien aussi ce regard à travers le cinéma. Il suffit de regarder le monde à l'échelle des micro-organismes pour le voir autrement et découvrir que les atomes de carbone sont en agitation continuelle. Ils interagissent, ils évoluent en lien avec beaucoup d'autres éléments comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces 6 éléments constituent le dénominateur commun de toute vie et représentent 99% du poids sec de tout être vivant. La souplesse du carbone est l'un des secrets de la vie sur Terre. Notre intérêt pour le carbone vient de ses caractères très dynamiques. Il s'attache, se lie, collabore, il est toujours en transformation. Le carbone vient des étoiles. Il est partout. Lorsque la lumière rencontre le végétal, il traverse plusieurs états, gaz, eau, minéral. Le charbon, c'est une essence. Charbonner, c'est transformer la matière, organique, en carbone. Si on tape sur un morceau de charbon, ça fait un bruit de métal. Et pour résumer cette complexité, le carbone, tout le monde veut danser avec lui. Cette capacité de coopération est à l'origine du désir que nous avons eu de charbonner. En premier lieu, cet ouvrage nous rappelle que notre imaginaire du charbon est très réduit par rapport à la richesse vitale qu'il contient. Le charbon minier est issu de l'exploitation des sols et génère de la pollution. Le charbon de bois, c'est le barbecue. L'un nous ramène à l'imaginaire du 19e siècle, l'autre au loisir. Comment en sommes-nous arrivés à une vision aussi appauvrie et fragmentée ? L'exploitation démesurée des richesses a réduit notre imaginaire de la matière première. De fait, nous consommons tous la même chose de la même manière. Nous assistons à une industrialisation de nos vies par une politique néolibérale qui définit nos existences à travers l'idéologie d'un grand remplacement, celui d'une technique par une autre, pour produire toujours plus de croissance. Ainsi, cette expansion implique à son tour de produire toujours plus d'énergie et d'engrais. Dans cette vision de la société et de la nature, l'avenir devrait inexorablement remplacer le passé, et ce, en oubliant ce qu'il nous a donné. Surtout, cette idéologie qui prône un progrès destructeur empêche de penser la coexistence et d'envisager des collaborations entre passé, présent et avenir. Centrée sur la seule condition humaine, elle construit un éloignement de la nature. Aussi, la lecture de Charbonnier nous révèle qu'il faut élargir notre imaginaire du carbone tout en réduisant notre bilan. Comment décarboner la société en utilisant le charbon ? Tout est pollué, même nos images. Comment voir autrement ? À quelles conditions le progrès humain ne détruit-il pas la nature ? Philippe pose la question : comment en sommes-nous arrivés à être à ce point dégoûtés de ce bien de ce monde ? Par ces temps de doute.